les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En janvier 1956, Jean Renoir a 61 ans et a déjà réalisé la grande majorité de ses films. La chienne, Boudu sauvé des eaux, Le crime de Monsieur Lange, La bête humaine, La règle du jeu, La grande illusion, L'homme du Sud ou encore Le fleuve. Après s'être installé à Hollywood pendant la guerre, il est revenu en Europe au début des années 50 et y a tourné ses deux derniers films, French Cancan et Le carrosse d'or. Pour l'émission L'inconnu qui est en vous, il se confiait cette année-là au micro de Marguerite Stenlen. En plus du témoignage de Renoir lui-même, on entendait dans l'émission, pour commencer, une belle analyse de son œuvre écrite par André Bazin, et pour finir, c'est Jean-Bertrand Pontalis qui, jeune philosophe à l'époque, se faisait encore appeler Jean Lefebvre Pontalis, et donnait sa vision de l'œuvre de celui que Truffaut appelait le plus grand cinéaste du monde. L'inconnu qui est en vous, Jean Renoir, première diffusion sur la chaîne nationale le 8 janvier 1956.
Le club d'essai de la radiodiffusion télévision française présente... L'inconnu qui est en vous. Une émission de Marguerite Stenlen, réalisée par Georges Godbert, avec la collaboration de Jean Lefebvre Pontalis, agrégé de philosophie. Aujourd'hui, Jean Renoir. Texte de présentation de André Bazin, lu par Jean Topard.
S'il est vrai que tout homme peut évoquer un animal dont il est en quelque sorte la caricature, Jean Renoir a depuis longtemps reconnu le sien. C'est un ours. Mais si l'art commence par le mensonge, ou du moins par le masque, la personne même de Jean Renoir est de l'art. Car s'il lui plaît de ressembler à l'ours, c'est à la manière de Jupiter choisissant le cygne, et pour mieux nous séduire. Car Jean Renoir fait de l'ours une composition. En dépit de sa force, un animal farceur, sentimental et gracieux. Tout le contraire du fauve grognon et maladroit dont le pavé est resté célèbre. De l'ours, il a en effet la stature massive, brusquement contredite par la légèreté dansante de la démarche, où une imperceptible claudication met une note plaisante et comme parodique. Ce n'est sûrement pas par hasard que pour tenir sa partie dans la mascarade tyrolienne de la règle du jeu, Octave, interprété par Jean Renoir lui-même, s'est déguisé en plantigrade. 18 ans plus tard, aujourd'hui, l'ours est devenu gros ours blanc à nez rose qui promène sur le monde le même regard tout bleu, lucide, affectueux et amusé. Tel il m'a paru en 1950, lors de son premier retour en France, après 10 ans d'absence. Je suis en effet de cette génération qui découvrit le cinéma après 1940, et je n'ai pas connu Jean Renoir avant son départ pour l'Amérique au début de la guerre. Mais il était devenu pour moi, comme pour beaucoup de jeunes gens qui connurent surtout l'œuvre française de Jean Renoir à travers les reprises de la Cinémathèque ou des Ciné-Clubs, l'auteur de La Grande Illusion, du crime de Monsieur Lange, le plus grand de nos metteurs en scène. Le dernier de ses films français, La règle du jeu, dont l'échec commercial avait été presque complet lors de sa sortie sur les écrans, nous apparaissait comme le couronnement du réalisme de l'école française, mais contenait aussi les éléments d'une révolution de la forme et du fond cinématographique, sans rien emprunter pour autant à ce qu'on avait appelé quelques années plus tôt le cinéma d'avant-garde. La véritable avant-garde, nous la voyons dans l'approfondissement du récit, dans l'intelligence des relations créées par le metteur en scène, qui égale enfin le romancier, entre les personnages et leur milieu. Aujourd'hui, la règle du jeu nous apparaît admirablement construite, aussi parfaitement ordonnée qu'un ballet, alors qu'il semblait même, à ses rares admirateurs, confuse et embrouillée. Cette œuvre n'échappait pas au sort des œuvres durables que nos yeux ne reconnaissent pas tout de suite, et sans doute, French Cancan est l'une d'elles aussi. Dès ses premiers films parlants, Jean Renoir a réagi contre la photographie à la mode de son époque. Les arrière-plans dans le coton, les images tramées, les acteurs placés sagement devant la caméra afin de permettre les gros plans successifs. Dès 1932, il utilisa la profondeur du champ, la perspective, et dans la règle du jeu, tira toutes les conséquences de cette technique. Si j'en parle aujourd'hui, c'est que beaucoup de critiques chagrins ont considéré ce film, tourné juste avant son départ pour l'Amérique, comme son testament artistique. Dans la mesure où il était admiré comme le plus français des metteurs en scène, son émigration à Hollywood fut prise pour une trahison ou comme un désastre. Lui-même s'est chargé de sa condamnation en écrivant dans la revue Le Point en 1938 « Je sais que je suis français et que je dois travailler dans un sens absolument national ». Le réalisateur d'une partie de campagne croyait alors ne pas pouvoir travailler convenablement hors de France. Il méconnaissait son génie, qui a toujours été sensible à l'ambiance humaine, géographique et historique. En ce sens, il est le moins indépendant des cinéastes, mais pour la glorieuse raison qu'il est le plus perméable au milieu qui l'entoure. Ses premiers films américains témoignèrent, il est vrai, d'un certain désarroi. On ne s'adapte pas si vite à un mode de vie et de travail si différent. Mais « L'homme du Sud » est un des films les plus profondément américains qui ait été tourné. L'émigration n'avait pas déraciné Jean Renoir, elle avait élargi son horizon. Il répète volontiers que notre époque ressemble à la Renaissance, quand les artistes se sentaient chez eux dans toute l'Europe civilisée, et qu'un cinéaste qui passe des studios d'Hollywood à ceux de Paris ou de Rome n'est pas très différent du peintre du Quattrocento changeant de cours pour exercer ses talents. Renoir a toujours su rester en accord avec son temps, jusque dans ses variations les plus subtiles. Peu de gens peuvent prétendre aujourd'hui qu'ils savent où ils vont, dit-il lui-même. Ceux qui marchent dans un sens précis le doivent plus à leur instinct qu'à leur intelligence. Quand j'ai fait la règle du jeu, je connaissais le mal qui rongeait mes contemporains. Cela ne veut pas dire que j'ai su comment donner une idée claire de ce mal dans mon film, mais mon instinct me guidait. La conscience du danger me fournissait les situations et les répliques. Et mes camarades étaient comme moi, nous étions inquiets. Ce n'est pas tellement difficile de travailler quand le compas intérieur vous indique la vraie direction. J'ai retrouvé la même certitude avec le fleuve. J'ai senti monter en moi ce désir de toucher du doigt mon prochain, que je crois mon semblable dans le monde entier. Ce contact humain, Jean Renoir l'a aussi avec ses collaborateurs. Il répète sans cesse qu'un film est un travail d'équipe. Mais il ne viendrait à aucun de ses coéquipiers l'idée saugrenue que le résultat n'est pas exclusivement du pur Renoir. Ils savent bien au contraire ce qu'ils doivent à cette collaboration où le donneur s'enrichit. Mais de tous les collaborateurs de la création cinématographique, il en est un auquel Renoir fait un sort privilégié, l'acteur. Pour l'auteur de French Cancan, comme du reste au théâtre, pour l'auteur d'Orvay, le travail commence avec l'acteur et lui est totalement soumis. C'est pourquoi, si considérables qu'aient été les nouveautés techniques introduites par Jean Renoir dans le style cinématographique de 1930 à 1939, il nous faut convenir qu'elles n'étaient pas l'essentiel de son message. Le fleuve, le carrosse d'or, French Cancan sont presque exclusivement composés de plans fixes, comme si Renoir, après avoir fait l'expérience de la mobilité de la caméra, revenait à la simple contemplation de ses interprètes. Catherine Essling, dans Nana et la petite marchande d'allumettes, était le point de départ de ses inventions, et il en est de même pour ses films actuels. Il transforme l'histoire pour des acteurs, il adapte le scénario à leur tempérament. Ce qui, chez les autres, ne serait que correction de détails, devient pour lui refonte totale à partir des traits physiques de l'interprète. Ainsi, le carrosse d'or, pièce de Mérimée, est la conjonction de trois éléments. La musique de Vivaldi, une troupe de comédiens dell'arte et d'Anna Magnani. De même, Orvay est né de la rencontre de Renoir et de Leslie Caron. « J'ai conçu ce personnage, a-t-il dit, à cause de la façon qu'avait cette petite danseuse de prononcer les bois pour les bois. » N'est-ce pas qu'il travaille comme un peintre sur le motif en s'inspirant de ce qu'il voit ? Je suis, dit-il, un peu dans le cas d'un homme amoureux d'une femme et qui va la voir avec un bouquet à la main. Dans la rue, il répète le discours, discours magnifique, qu'il va lui tenir. Il arrive devant la femme, tend le bouquet et dit tout autre chose. Néanmoins, la préparation a tout de même un peu aidé. Un film de Renoir n'est pas si loin d'un tableau d'Auguste Renoir. C'est un tableau impressionniste dont l'acteur serait le modèle, mais aussi un portrait dramatique qui aurait une histoire et une durée. Il faut remarquer que le sens de la peinture ne se traduit jamais en genre noir par une imitation plastique. Et il suffit de regarder attentivement les photos en couleur de French Cancan pour s'apercevoir qu'il y a peu de ressemblances avec les tableaux de Renoir, Degas, Lautrec, etc., dont les noms sont venus à l'esprit durant tout le film. A l'inverse, John Huston, dans Moulin Rouge, baigne son film dans une lumière jaune pour qu'il ressemble au tableau de Toulouse-Lautrec. Jean Renoir, lui, n'a pas besoin de copier un grand peintre pour se trouver au cœur de l'inspiration. La grande leçon que lui a donnée son père, c'est une appréciation infaillible de l'œil, le culte de l'image, de tout ce qui vient du monde extérieur par le canal des sens. Comprendre le monde, c'est d'abord savoir le regarder pour s'abandonner à lui avec tendresse. L'homme du Sud, le Carrosse d'or, French Cancan, et à coup sûr Orvet, sont en même temps que la création d'un univers romanesque ou dramatique soumis à des lois autonomes, de chaleureuses et discrètes méditations sur l'amour, l'art et la vie.
Monsieur Jean Renoir, l'enfance de l'homme qu'il étudie intéresse toujours le psychologue très particulièrement. Mais il n'a pas toujours la chance de rencontrer le fils d'un grand peintre devenu à son tour célèbre, mais en utilisant un moyen d'expression aussi différent de la peinture que le cinéma. Monsieur Jean Renoir, vous êtes né à Paris, je crois, à Montmartre.
Oui, je suis né dans cet endroit qu'on appelle encore maintenant le Château des Brouillards. Mes parents y sont restés jusqu'au moment où j'ai été âgé d'environ 2 ans. Et après le Château des Brouillards, nous sommes descendus rue Caulaincourt, où nous habitions, je crois, au 43. Mon père avait son atelier au 73, là où Stenlen avait son atelier, nous étions voisins. Et puis plus tard, nous sommes descendus au coin de la rue Viollet-le-Duc, l'immeuble qui est près du cirque Medrano. En réalité, c'est assez curieux, on ne sait plus si les souvenirs sont véritables, sont directs, ou s'ils viennent des récits que des gens que l'on aime beaucoup vous ont faits. Alors je crois avoir des souvenirs du Château des Brouillards, mais je ne suis pas tellement sûr qu'ils ne viennent pas des récits de Gabriel.
Gabriel a été le modèle préféré de votre père.
Gabriel était une cousine de ma mère. Ma mère est née en Bourgogne. Et quand je suis né, elle a demandé à Gabriel, qui avait 15 ans à ce moment-là, de venir l'aider pour s'occuper de moi. Seulement, mon père, enfin, il avait des modèles professionnels, mais en réalité, tout le monde posait chez mon père. Tout ce qui était peignable, ce qui était à portée de la main, était happé, emmené dans l'atelier, assis, et il fallait y passer, n'est-ce pas? Mon père peignait tout le monde, alors il a peint Gabriel aussi. Et comme elle avait un corps avec une peau, comme disait mon père, qui ne repousse pas la lumière, n'est-ce pas? Alors il l'a pas beaucoup. Parfois, je me demande quelle est la chose la plus nette, la plus directe que je dois à mon père. Et je crois que je dois surtout lui être reconnaissant d'une certaine attitude envers ce que l'on appelle aujourd'hui un peu prétentieusement les questions de sexe. Et cela vient de ce que mon père faisait beaucoup de nus. Alors j'étais donc entouré de tableaux représentant des femmes nues. Je rencontrais tout de même de temps en temps les modèles de mon père alors qu'elles n'étaient pas habillées. Et pour moi tout ça était extrêmement naturel. Et plus tard au collège, lorsque j'ai vu des petits camarades qui me montraient en se cachant des photographies de femmes nues, je ne comprenais pas pourquoi. Je trouvais ça extrêmement simple, extrêmement normal, extrêmement naturel. Et je crois que ça m'a rendu un grand service et que ça m'a permis, dans mes films, d'aborder ces questions de sexe, peut-être avec un petit peu plus d'honnêteté que ne le font mes petits camarades qui ont été entourés d'une éducation un peu plus hypocrite, disons, étant jeune.
C'est-à-dire que c'était la nature, alors?
C'était la nature, oui. Nous nous habituons dans les premières maisons qui ont été construites rue Caulaincourt, c'est-à-dire à gauche en montant. Et en face, c'était encore le maquis. Et le maquis persistait, vous savez ce qu'était le maquis? C'était simplement des baraques en bois construites par des gens qui n'avaient pas les moyens d'habiter un immeuble un peu mieux construit. Et c'était un endroit magnifique, un endroit avec des roses, avec des aubépines, avec des fleurs, avec des baraques croulantes, il y avait de tout. Je me rappelle une dame charmante qui vendait du poisson dans la journée et qui avait un très beau fauteuil doré devant sa baraque et qui recevait la visite de ses filles. L'une était danseuse à l'opéra, l'autre avait une carrière un peu plus aventureuse. Il y avait aussi le voisin d'Alléchant qui élevait des pigeons. Et comme il était très patriote, il avait des pigeons peints en bleu, d'autres en blanc, d'autres en rouge. Alors il les faisait évoluer dans le ciel, dans des formations qui rappelaient le drapeau français. Et un jour, on a découvert, hélas, le ciment armé, c'est-à-dire la possibilité de faire des maisons là où on ne pouvait pas en faire avant. Car si le maquis persistait, c'est simplement parce que sur ces pentes argileuses, il était impossible de construire de grands immeubles. Malheureusement, avec l'invention des piliers en ciment, c'est devenu possible de construire des immeubles à la place du maquis. Et un beau jour, mystérieusement, le maquis a brûlé.
Alors c'est le décor de French Cancan que vous avez repris là, que vous avez fait revivre.
C'est un peu le décor. Enfin, les souvenirs sont venus malgré moi et je crois que c'est comme ça qu'il faut procéder. Je crois que si on s'attache aux souvenirs, et si on dit faisons un film sur des souvenirs, on risque une chose statique et un peu morte. Tandis que si on dit ne pensons pas aux souvenirs, faisons un film moderne, un film nouveau, racontant une histoire. Alors les souvenirs viennent malgré eux, donnent au film une certaine authenticité, sans pour cela enlever la vie du film.
Ça c'est le subconscient.
C'est le subconscient et je crois qu'il ne faut travailler qu'en espérant que le subconscient viendra vous aider.
Est-ce que vous vous sentez un artiste ou un artisan, comme vous me l'avez dit? Cette différenciation m'a beaucoup intéressé.
Eh bien, je me
sens... Vous m'avez dit, je me défie de l'art.
Ah oui, absolument. Je pense que c'est extrêmement dangereux de partir dans une histoire en y voyant d'abord des buts généraux ou même des buts philosophiques ou même simplement... en pensant que l'on va faire œuvre d'art. Je crois qu'il faut partir avec des préoccupations purement artisanales. Maintenant, si l'on est doué ou si l'on a de la chance, eh bien, l'art s'y ajoute, mais ça doit s'ajouter inconsciemment. De même, n'est-ce pas, les très grandes idées doivent venir de petites idées, à mon avis, et elles viennent toutes seules ou elles ne viennent pas. Mais si on veut les faire venir, elles se sauvent.
Vous ne peignez pas quand vous étiez enfant, vous.
J'adorais le théâtre et je peignais des décors de théâtre en miniature. Mais je n'ai jamais considéré que c'était de la peinture, c'était de la décoration.
Comment s'est fait le choix de votre carrière?
Je ne crois pas que mes souvenirs d'enfance aient intervenu dans le choix de ma carrière. Le choix de ma carrière s'est fait... après la guerre de 1914, après 1918, mon premier métier a consisté à être officier de cavalerie. Et puis, j'ai été blessé, je suis passé dans l'aviation, j'ai été blessé. Et puis, la guerre m'a semblé une chose assez affreuse et j'ai donné ma démission de l'armée. Et mon père m'a vivement poussé à faire quelque chose que j'adorais et qui était à faire de la céramique. C'était donc l'influence directe de mon père qui me faisait faire de la céramique. Mais en réalité, j'aimais mieux le cinématographe. Ça commençait, c'était une chose très nouvelle. Et d'ailleurs, ça me semblait ressembler à la céramique. En ce sens qu'à cette époque-là, on tournait une scène et on ne savait pas très bien ce qu'elle deviendrait. C'est un peu comme la céramique. On façonne un pot, on met des couleurs dessus. Ces couleurs sont tous des oxydes qui ont l'air d'être noirs. Et puis une fois que c'est cuit, ça devient bleu, vert, jaune, n'est-ce pas? C'est un mystère absolu. Et les films me semblaient aussi mystérieux que ça. Et ils l'étaient. Car vraiment, en commençant, mes efforts étaient basés uniquement sur le hasard.
Mais alors, les moyens techniques sont très différents aujourd'hui qu'ils n'étaient au moment où vous tourniez Nana.
Ils sont très différents et je leur reprocherai peut-être d'être trop perfectionnés. Comme vous le savez, tout art primitif est plus facile. Prenons l'exemple de la tapisserie, par exemple. On peut dire qu'avant l'invention de la haute lisse, c'est-à-dire avant Henri IV et Sully, toute tapisserie était un chef-d'œuvre. L'homme le moins doué, le moins artiste, ou la femme faisait de la tapisserie. Il n'y a aucune raison de croire que la reine Mathilde, la femme de Guillaume le Conquérant, était une tellement grande artiste. Or, elle a fait la plus belle tapisserie du monde, car rien n'égalera jamais la tapisserie de Bayeux. Quand les techniques sont primitives, les obstacles que l'on rencontre devant soi vous forcent à faire travailler votre esprit. Et je crois que la qualité est d'autant plus facile que la technique est plus difficile. Lorsque la technique est facile, par exemple lorsqu'un peintre, au lieu d'avoir deux ou trois couleurs, comme les artistes des cavernes, qui peignaient avec un morceau de charbon et un morceau de terre de couleur, lorsqu'un artiste a toutes les couleurs à l'aniline sur sa palette, lorsqu'il a le choix entre 50 couleurs, eh bien pour avoir du talent, ça lui est très difficile, parce qu'il ne reste plus que sa personnalité et son cerveau et que sa connaissance du monde. Or, cette connaissance du monde se trouve avivée, se trouve renforcée par la lutte contre une technique primitive. C'est la raison pour laquelle les arts primitifs ne nous présentent presque que des chefs-d'œuvre. Tandis que les arts évolués, les arts à technique évolués, nous donnent une quantité d'objets inférieurs. Prenez n'importe quelle assiette d'avant l'invention de l'imprimerie sur assiette, prenez n'importe quelle assiette jusqu'au 19e siècle, elle est belle. C'est un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, entrer chez un marchand de faïence, parce que tout est laid. Ben, mon Dieu, dans le film, nous subissons cette même évolution. C'est-à-dire qu'il nous arrive quelque chose d'extrêmement grave, à mes confrères et à moi-même. La technique est tellement développée qu'à partir de maintenant, il va peut-être être nécessaire d'avoir du talent. Seulement, n'oubliez pas une chose, c'est que le cinématographe n'est pas un art aussi personnel qu'on veut bien le dire. La part de l'auteur dans le cinématographe est très grande, mais l'auteur n'est pas seul. Et ce que l'on voit sur l'écran, ce qui perce sur l'écran, c'est aussi l'ensemble des vitalités, des personnalités, des forces humaines de tout le monde. Non seulement des gens qu'on voit, mais des gens qu'on ne voit pas, des techniciens et des ouvriers. Et dans French Cancan, des amis ont bien voulu me dire qu'ils aimaient bien mes scènes de la fin, qu'ils les trouvaient d'une certaine vitalité. Évidemment, j'y suis pour une part. Mais croyez-moi, les danseuses qui ont fait le travail, ils sont pour une part énormes. Et si elles n'avaient pas été là avec un enthousiasme absolument forcené et une vitalité débordante, ben je n'aurais pas le cancan que j'ai dans mon film.
Oui, naturellement. Mais vous avez fait une grande évolution entre La Grande Illusion et French Cancan. Ce sont les vos souvenirs de la guerre de 14 qui vous ont conduit
à... Oui, certainement. Certainement. La Grande Illusion est née de la façon suivante. En 17, j'étais dans l'aviation, j'étais pilote dans une escadrille de reconnaissance. Je prenais des photographies. Et les appareils que nous avions étaient des appareils assez lents et faciles, enfin c'était des proies faciles pour les chasseurs allemands. Et plusieurs fois j'ai été attaqué par des chasseurs allemands et j'ai bien failli être descendu. Et plusieurs fois, un chasseur français apparaissait, toujours le même, descendait l'avion allemand et me permettait de rentrer bien tranquillement avec mes petites photographies et de donner satisfaction à l'état-major qui adorait ces photos. Je me demande d'ailleurs ce qu'ils voyaient dessus, mais enfin ils aimaient les photos, fallait pas les contrarier. Alors, ce chasseur, j'ai fait sa connaissance, il s'appelait Pinsard. Et c'est devenu un as de guerre extrêmement connu. Et ce Pinsard a été souvent fait prisonnier, n'est-ce pas, descendu et fait prisonnier par les Allemands, et s'est évadé un nombre considérable de fois. Et il me racontait ses évasions, et ça m'impressionnait beaucoup. Et finalement, il en est sorti La Grande Illusion. La petite étincelle qui a fait sortir La Grande Illusion a été ma rencontre avec Pinsard 20 ans plus tard, à Istres. Je tournais un film qui s'appelait Tony, et il n'y avait pas moyen de tourner parce que les avions d'Istres faisaient un boucan effroyable. Alors on me dit, allez donc demander au général qui commande Istres de bien vouloir faire passer ces avions ailleurs. Je suis allé le voir et c'était Pinsard. Alors nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, et toutes ces histoires d'invasion me sont revenues à l'esprit, et j'ai écrit le scénario de La Grande Illusion.
Vous ne trouvez pas que le passage entre le 19e et le 20e siècle s'est fait en 14?
Mais c'est-à-dire qu'il est extrêmement commode de symboliser les grands changements par des changements dans des détails visibles. Et le changement dans un détail visible qui m'a frappé et qui me fait penser qu'en effet, le tournant a été à ce moment-là, parce qu'après tout, nous nous habillons comme nous sommes. C'est le vêtement. Enfin, il vaut mieux que je raconte l'histoire. J'étais dans un hôpital, assez grièvement blessé, et j'ignorais que ma mère venait de mourir. Et ma belle-sœur, qui était l'actrice Vera Sergine, a obtenu de l'état-major la permission d'aller me l'annoncer au front. Et j'étais donc dans cette grande salle avec des quantités de blessés. On m'annonce Vera Sergine. J'ai d'ailleurs tout de suite compris pourquoi, parce que je savais que ma mère était malade. Mais quand la porte s'est ouverte et que j'ai vu Vera dans l'encadrement de la porte, je dois dire que même mes craintes concernant ma mère ont fait place à ma stupéfaction la plus profonde et la stupéfaction de tous les officiers et de tous les hommes qui étaient dans des lits. Nous sommes tous restés silencieux, mais le souffle coupé pendant près d'une minute. Nous avions devant nous un être nouveau, un être que nous ne connaissions pas. Nous avions une femme avec des jupes courtes et des cheveux coupés. Et nous n'avions jamais vu cela. Et croyez-moi, pour des gens qui avaient été élevés avec l'idée que la femme, c'était des jupes longues, et c'était surtout de longues tresses tombant sur les épaules, c'était même le renversement de nos idées sexuelles. N'est-ce pas? Pour nous, l'amour avec une femme, dans cette idée d'amour, les cheveux jouaient un rôle primordial, n'est-ce pas? La chevelure était une chose fantastique. Or, brusquement, les femmes avaient décidé d'y renoncer. D'y renoncer pour des raisons pratiques. Cette mode venait évidemment du fait que les ouvrières dans les usines de guerre avaient été obligées de couper leurs cheveux parce que c'était dangereux à cause des courroies. Mais quoi qu'il en soit, cette raison pratique avait provoqué une mode et c'était la nouvelle Ève que nous avions devant les yeux. Et à mon avis, ça a été ça le grand tournant.
Alors cette nouvelle Ève, est-ce qu'on la voit dans vos films? Comment est-ce que vous avez vu ce problème?
Eh bien, je suis obligé d'avouer que dans mes films, un peu consciemment, j'essaye tout de même d'apparenter cette nouvelle Ève avec l'ancienne Ève. Parce que tout de même, mon enfance a été entourée des peintures de mon père, a été entourée de femmes que j'admirais. J'ai toujours adoré les femmes. Je les ai toujours beaucoup respectées et adorées. Et les femmes de mon enfance sont des femmes à cheveux longs, n'est-ce pas? Sont des femmes qui ne sont pas masculines du tout, sont des femmes féminines. Et dans tous mes films, je fais tout mon possible pour que mes femmes, même si elles ont les cheveux coupés, même si elles ont des blue jeans ou des pantalons, se rapprochent un peu des femmes de mon enfance.
Mais ce qui vous caractérise, c'est que vous avez quitté la France et que vous avez été voir un peu dans le monde entier d'autres mentalités que la nôtre.
Oui, alors là, voyez-vous, j'ai mon idée là-dessus. Je crois que les mentalités ne sont pas tellement différentes. Ce que j'ai dit dans La Grande Illusion, je le crois toujours, je n'ai pas changé d'avis. Je crois que le monde n'est pas divisé en cloisons verticales, mais plutôt en cloisons horizontales. Et je crois que nos différences ne sont pas dans les latitudes, dans les nations, nos différences sont dans nos activités d'esprit ou de corps. Je crois qu'un danseur, Tenor Radha, la danseuse hindoue qui est dans le fleuve, eh bien, avec elle, nous avons rencontré des danseuses françaises, eh bien, ces gens-là s'entendent parfaitement, ils parlent le même langage, avec un petit accent. Au point de vue des mots, c'est un peu difficile de se comprendre, mais en réalité, ces gens-là arrivent vite à un contact absolu. Moi-même, lorsque j'ai travaillé dans les Indes, eh bien, j'ai tout de suite rencontré des gens qui faisaient du cinématographe, des gens de mon métier. Je me suis trouvé très à mon aise avec eux, et croyez-moi, j'avais plus de contact avec eux que je n'en aurais eu avec des hommes d'affaires français, étant donné que je ne connais rien aux affaires, et qu'à force de faire des films, je finis par m'y connaître un petit peu en film. Alors, en réalité, mes voyages ne m'ont pas mis en contact avec des mentalités tellement différentes. J'ai rencontré surtout des gens de mon métier, et je me suis trouvé, en somme, à la maison, presque comme si j'étais resté en France. Non, ce que les voyages m'ont apporté, c'est surtout le renforcement de cette idée, n'est-ce pas, que le monde, après tout, est un.
Mais est-ce que je voulais en revenir à la création d'un film? Vous m'avez dit que, par exemple, l'état d'esprit qui règne sur le plateau est si grisant.
Ah oui, c'est grisant et c'est même extrêmement dangereux, parce qu'on peut se laisser emporter dans une espèce, je dirais, de presque paradis, n'est-ce pas, et oublier que la Terre existe. Or, la Terre, finalement, ça consiste à être assis dans une salle de spectacle et à voir le film qui passe sur un écran et à voir des gens qui sont contents ou qui ne sont pas contents.
Et en fin de compte, alors, c'est le public qui est le grand juge?
Pas forcément. Le public s'est très souvent trompé sur des films. Il y a de très bons films qui ont été mal jugés par le public, et il y a de très mauvais films que le public a adorés. Néanmoins, je crois que là aussi, c'est exactement comme pour les grandes idées et pour ce que l'on appelle l'art. Je crois que si nous ne travaillons pas avec le désir sincère de plaire à ce public, je crois que nous nous trompons.
Jean Lefèvre Pontalis, agrégé de philosophie, va vous révéler, pour terminer, l'inconnu que peut découvrir le psychologue dans l'artiste artisan qu'est Jean Renoir.
Aimer la vie, aimer son métier. Ces mots plats, il suffit d'entendre Jean Renoir pour qu'ils prennent un relief inattendu. C'est qu'il ne s'en sert pas pour prêcher des vertus. S'il parle de son métier, il insiste sur ce qu'il entra de fortuit dans son choix, de sa carrière. Il retient les hasards heureux qui lui valurent telle rencontre, tel film. Il proteste si on parle de son art. Il n'est qu'un artisan, un meneur de jeu, un chef cuisinier qui rate les sauces sans ses aides, un improvisateur qui gesticulerait en vain sans la complicité de ses camarades. Et s'il aime la vie, il ne se croit pas élu pour parler en son nom. Il se méfie des théories par-dessus tout et, sauf peut-être dans le fleuve, dédaigne les messages. Pour lui, comme pour Goethe, le savoir est gris, et l'arbre de la vie toujours vert. Ce qu'il apprécie, l'eau, Paris, ou ces hommes qui partagent son goût pour le vin rouge ou le fromage de Brie, c'est trop immédiatement pour le déclamer, et assez violemment pour vouloir le communiquer par l'art le plus vivant de notre temps, le cinéma. C'est pourquoi Il s'occupe moins dans ses films du scénario et de la progression dramatique que des choses, des faits, des gestes. C'est pourquoi il choisit ses acteurs, non en égard à la convention des emplois, mais s'il pressent qu'ils finiront par ressembler à leurs personnages, et que de cette rencontre qui tient du miracle naîtra notre émotion. Tout ce qu'il y a de désinvolte chez lui n'est que l'envers de sa curiosité à saisir le monde dans les moments où il bouge. Il est passionnément attentif aux vibrations chaudes de l'air, à un regard qui chavire, à une plaisanterie qui jaillit, à une amitié qui naît. Voici donc un produit très rare à notre époque. Un homme profond sans mystère, créateur sans orgueil, généreux sans outrance, bienveillant sans fadeur, dont, plutôt que de l'analyser, on souhaiterait être l'ami. Un homme qui fait exactement ce qu'il a envie de faire, qui travaille pour le plaisir, et obtient le nôtre, non parce qu'il le cherche, mais parce qu'il s'exprime juste comme il sent. Peut-être l'essentiel de la réussite de Jean Renoir est-il là, persuadé qu'il n'a rien d'un cas, et nous dire « mais qu'est-ce qui vous empêche donc d'en faire autant ?» Comme si devenir celui que l'on est, et devenir Jean Renoir, allait de soi. Il est extrêmement difficile d'être sincère quand on est tout seul, dit-il quelque part. Cet aveu pourrait nous servir de fil conducteur. Tout trahit chez Renoir un goût bien enraciné pour le naturel. Si, malgré les exigences du métier, il répugne à se soumettre à un plan de travail, si tant de ses films ont cette allure improvisée et souvent blagueuse qui leur vaut 20 ans après de paraître naître sous nos yeux, si chacun d'eux est un nouveau départ, c'est qu'il redoute par-dessus tout l'insincérité. Passion exigeante, mais impérative, pour qui, fils d'un homme exceptionnel, ne consent pas à mourir dans son ombre. Or, Auguste Renoir ne devait pas se laisser oublier facilement. Devant une présence si encombrante et si lumineuse, comment se définir sans artifice? Que Jean Renoir ait très tôt ressenti cette difficulté, il ne le dissimule pas. Quand j'ai commencé à comprendre que mon père était un homme important, cela m'a un peu épouvanté. Mais ce qu'on appelle chance, occasion, n'est que la rencontre d'une attente et d'un événement, et c'est l'intensité de l'attente qui fit la rencontre heureuse. L'admirable est que Jean Renoir ait su maintenir l'artisanat dans l'industrie et la présence d'une équipe dans la création. Ses rapports avec ses acteurs sont ceux de l'artiste avec son modèle, non d'un chef avec sa troupe. Il se sert de cet appareil indomptable qu'est une caméra, ni pour prouver, ni même pour raconter, mais comme d'un instrument très sensible, capable de capter une réalité inépuisable. Bref, sauf en de rares moments, par exemple certaines scènes de rue de French Cancan, sa manière d'être fidèle à Auguste Renoir est de se montrer aussi totalement cinéaste que son père était peintre. Oui, par rapport à son père, il a su trouver la bonne distance. Trouver le juste point entre l'héritage et la singularité est peut-être le souci essentiel de Jean Renoir. Il apparaît en tout cas clairement dans ses dernières œuvres, le Carrosse d'or, French Cancan, qui allie des caractères très résolus ou insolites, Gabin, la Magnani, à des genres bien définis, Commedia dell'arte et Moulin Rouge, tradition qui nous restitue le parfum de l'Italie et de la France comme de bons crus. Renoir tolère mal l'opposition nue. Il ne prend pas son parti de ce qui sépare les hommes. Il ne peut travailler qu'avec des gens qui sentent comme lui. Cette camaraderie, qui anticipe, aux yeux de l'auteur de La Grande Illusion, une confraternité plus large, passe dans ses films. Mais tout comme il craignait de répéter son père, il craint de se répéter. Le contraste est frappant entre ses dévots qui gémissaient sur son séjour à Hollywood et lui-même qui parut fort bien s'en accommoder. Ce que nous avancions touchant son père, trouver la bonne distance, ni fils soumis, ni fils révolté, il faudrait aussi l'appliquer à son pays. Renoir, c'est le cinéma français, disait-on de lui avant la guerre. Hommage flatteur, mais qui ne dut lui plaire qu'à demi. Car le limiter à des frontières, c'était le ramener à ses origines. Je pense, a-t-il dit, que l'origine des artistes travaillant à une œuvre n'a qu'une importance secondaire. Il rêve d'une internationale des métiers, d'un regroupement par civilisation. Ses films américains, ses récents hommages à l'Inde, au baroque italien, à Paris, expriment ce souci de reconnaître, au-delà de styles très divers, une même qualité d'émotion vraie, comme si Renoir voulait s'assurer que ce n'est à aucun atavisme, père ou patrie, qu'il doit d'être lui-même. Mais par un mouvement inverse, il corrige ce qu'il pourrait y avoir de desséchant dans ce souci par un violent attachement au monde sensible, à la peau, à la pâte des choses. Il les aborde franchement dans ce qu'elles ont à la fois de familier et de saugrenu. rien de moins intellectuel que le cinéma de Renoir. C'est un homme qui est partout chez lui et s'émerveille de se reconnaître des semblables. Difficile d'être sincère quand on est tout seul. Nous comprenons mieux maintenant ce que Renoir voulait dire. Sa sincérité, en effet, il l'obtient non en se fascinant sur sa différence, mais par un constant va-et-vient entre son père et lui-même, entre une culture et une autre, entre un passé divisé, hostile, et ses velléités bienveillantes qu'il croit pressentir aujourd'hui. Par un dialogue avec Musset ou avec Vivaldi, ou telle forme de spectacle qui l'a séduit. À ce point de perméabilité, les distinctions traditionnelles s'estompent, artiste ou artisan, œuvre réaliste ou de poésie, de divertissement ou de vérité, et il reste un de ces rares hommes qui ait su faire de leur passion leur métier.
Le Club d'essai de la radiodiffusion télévision française vous a présenté L'inconnu qui est en vous, une émission de Marguerite Stenlen réalisée par Georges Godbert, avec la collaboration de Jean Lefebvre Pontalis, agrégé de philosophie. Aujourd'hui, Jean Renoir. Texte de présentation de André Bazin, lu par Jean Topard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 janvier 1956. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique Les Nuits de France Culture.
The life of a fool, I said in my long, lonely day. I walk the avenue and hope I run into where comes out of you, coming my way. I stop just across from the door, but you never home anymore. So back to my room, and there in the gloom I cry tears of goodbye.
Every day in the life. Ooh.